Éthique, 8 mai 1984, Père Philippe, Saint-Joseph.
Je vais répondre à ces diverses questions. Est-ce qu'on peut parler de loi naturelle ? Est-ce qu'on ne peut parler de loi naturelle qu'ayant auparavant découvert Dieu ? Quel est le moment précis où apparaît l'évidence de la loi naturelle ? Il n'y a pas d'évidence de la loi naturelle. Aucune. À moins que vous l'en ayez, moi j'en ai pas. On a l'évidence, voyez, l'évidence c'est un fait qu'on saisit immédiatement. Au point de vue philosophique, on ne peut parler de loi naturelle que dans la lumière de la sagesse de Dieu. Ceci, c'est très net quand on regarde historiquement. Historiquement, quels sont les premiers qui ont parlé de loi naturelle ? Ce sont les stoïciens. Les stoïciens ont mis très en lumière la providence. Cherchez dans Aristote, vous ne trouvez pas de loi naturelle. Cherchez dans Platon, encore moins. Vous ne trouvez pas de loi naturelle. De loi, je veux dire, de la loi naturelle dans le sens où on est en face d'une intention profonde qui est déterminée naturellement et qui s'impose fondamentalement. Alors, la loi naturelle apparaît avec les stoïciens dans la lumière de la providence divine. Dans saint Thomas, vous retrouvez la loi naturelle, vous retrouvez chez les pères de l'Église, chez tous, vous retrouvez la loi naturelle. Mais toujours dans une lumière de la sagesse de Dieu créatrice. C'est parce que Dieu crée dans sa lumière de sagesse que Dieu met dans les réalités qui sont créées par lui une intention ordonnée à sa finalité, et c'est ça qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, vous voyez, c'est la lecture que nous faisons sur l'homme ou sur les autres réalités dans la lumière de la sagesse de Dieu. Nous avons un appétit naturel ordonné vers le bien. Cet appétit naturel ordonné vers le bien est quelque chose qui s'impose à nous. Ça s'impose pourquoi ? En fonction d'un regard de Dieu sur nous, en fonction de ce que représente la lumière divine sur nous, la lumière de la sagesse de Dieu, qui met un ordre naturel, une intention profonde à notre propre nature humaine. Et c'est ça la loi naturelle. Et donc, je ne peux pas parler de loi naturelle au sens absolu. Je peux parler d'un appétit naturel, mais pas d'une loi naturelle. Alors, quelle différence y a-t-il entre ce que représente l'appétit naturel ? Un appétit naturel. J'ai un appétit naturel au niveau biologique, au niveau de l'aliment, au niveau du chocolat. J'ai un appétit naturel au niveau du vin. L'appétit naturel. Donc, c'est l'appétit naturel, ça. Je ne parle pas de loi naturelle. On ne dit pas qu'il y a une loi naturelle vis-à-vis du chocolat. Non, parce que dans certains pays, c'est pas le chocolat. Alors, c'est l'appétit naturel, c'est quelque chose de fondamental orienté vers le point de vue d'un bien. Il y a l'appétit naturel vis-à-vis de la vérité, qui nous vient de l'intelligence. Pour l'intelligence, il y a l'appétit naturel. il y a un appétit, et ainsi de suite. Donc, un appétit naturel. Et l'appétit naturel n'est pas l'instinct. Distinguons bien l'instinct et l'appétit naturel. Ce n'est pas la même chose. Hein. C'est deux choses différentes. Alors, la loi naturelle, comme toute loi, s'explique une organisation. La loi implique un ordre. C'est la différence entre l'appétit naturel qui n'implique. Ça implique un ordre dynamique, l'appétit naturel, mais un ordre simple. Tandis un. Une ordination simple, tandis que dans la loi, il y a l'organisation des moyens en vue d'une fin. C'est le propre de la loi. Des moyens en vue d'une fin. Des moyens normaux en vue d'atteindre cette fin. Eh bien, je ne peux parler de loi naturelle que dans la lumière de la sagesse de Dieu. Parce que le propre de la sagesse de Dieu, c'est d'ordonner. Et c'est d'ordonner la complexité de l'homme vers quelque chose qui est son bien et son bonheur, la béatitude. J'ai un appétit naturel vers la béatitude. Je ne dirais pas qu'il y a une loi naturelle vers la béatitude. J'ai une loi naturelle pour chercher le bien et éviter le mal. Alors, est-ce que c'est une loi naturelle, ça? Ou est-ce que c'est tout simplement le point de vue de l'intelligence pratique qui fondamentalement veut le bien et éviter le mal? Mais dans la loi naturelle, je précise tel bien et tel mal. Alors je dirais qu'il y a une loi naturelle. Il y a une loi, par exemple, pour la question, si vous voulez, c'est des questions très délicates, ces questions-là. Parce que la loi naturelle, par rapport à l'indissolubilité du mariage, est-ce que je peux dire qu'il y a une loi naturelle pour que le mariage soit indissoluble? Une loi naturelle indépendamment de la sagesse de Dieu. Selon la sagesse de Dieu, ça je peux le dire tout de suite. Hein. Dieu les crée en homme et femme, c'est dit dans l'Écriture, et c'est pour cet amour et pour que cet amour demeure. Alors, y a-t-il une loi naturelle? Y a-t-il une loi naturelle? Vous voyez, pour l'indissolubilité du mariage, indépendamment de la sagesse de Dieu. Très délicat à préciser. Très délicat. C'est pas évident. Une fidélité dans l'amour qui implique le point de vue de l'éducation des enfants, très bien. Jusqu'où doit aller cette fidélité? Jusqu'où doit aller l'indifférence? C'est des questions qui sont délicates, il ne faut pas affirmer trop vite. Voilà. Et alors, je crois qu'il faut bien comprendre que quand il s'agit d'une loi naturelle, au fond, c'est toujours dans la lumière de la sagesse de Dieu. Et c'est la loi naturelle, c'est exprimer les intentions profondes de la sagesse de Dieu à l'égard de tel être particulier. Alors qu'il montre cette intention. Oui. Toute loi, la loi naturelle, la loi positive, toute loi. Il y a toujours un enracinement de la vie naturelle vers le bien, c'est forcé. Et ça explique cet ordre. Pour qu'une loi soit légitime, elle explique l'ordre de la vie naturelle vers le bien. Et la loi naturelle explique cet ordre naturel, c'est-à-dire un ordre indéfectible, un ordre ad nous, un ordre qu'on ne peut pas préciser, qu'on ne peut pas changer. C'est ça la loi naturelle. Autrement, ce n'est plus une loi naturelle. La loi positive, on peut la changer. La loi naturelle, on ne peut pas la changer. Et c'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas parler de loi naturelle sans la sagesse de Dieu, qui exprime justement un ordre nécessaire entre cet appétit et ce bien. Oui. Alors, il est évident que dans une éthique purement humaine, je ne parlerai pas de loi naturelle. Je parlerai de loi naturelle dans l'éthique religieuse, où il y a référence avec le Créateur. Alors, dans une éthique religieuse, je peux parler de loi naturelle. Et je crois qu'on ne peut parler de loi naturelle que dans une éthique religieuse. Dans Dans Génétique chrétienne, c'est bien évident, puisque la référence est à l'égard du Créateur. Mais dans une loi, dans une éthique purement naturelle, c'est-à-dire une éthique qui fait appel à l'amour d'amitié, je ne crois pas qu'on puisse appeler, puisse parler au sens strict de loi naturelle. La dernière fois, nous avions vu que le complexe est l'arrêt d'un appétit naturel, et que c'est l'appétit naturel religieux qui était le plus enraciné en nous. Donc arrêter l'appétit naturel, le détourner, va faire un refoulement le plus grand qui soit. Comment se manifeste cette complexité, ce refoulement, ce complexe? Parce que cette complexité-là, ça ne va pas. C'est le refoulement. Comment va se manifester ce refoulement? L'adoration étant fondamentalement naturelle, quand l'homme n'adore plus Dieu, n'y a-t-il pas une compassion, un transfuge de l'adoration envers telle ou telle idéologie? Bon. C'est toujours très difficile de préciser un désordre. Or, tout repliement, c'est un désordre. De sorte que, d'une certaine manière, si l'appétit religieux est le plus fondamental, arrêter cet appétit religieux, arrêter cet ordre profond au point de vue religieux, dans l'adoration, c'est créer un désordre fondamental. Voilà ce que je dirais. C'est créer un désordre fondamental. Ce désordre fondamental va se réaliser de multiples manières, comme tout désordre. Dans l'angoisse, dans la culpabilité, et dans l'aliénation. Les trois grandes blessures psychologiques, ça se traduit du côté psychologique. Ça ne se traduit plus du côté philosophique, comprenez bien. Le côté philosophique saisit la causalité finale. La psychologie saisit le comportement. Tout désordre, je le saisis dans le comportement. Et donc, tout complexe, tout refoulement se traduit dans un désordre et dans un désordre que je saisis au niveau psychologique. C'est pour ça que le philosophe ne s'intéresse pas tellement au complexe en tant que philosophe. Il doit s'y intéresser, parce que le philosophe doit s'intéresser à l'homme dans sa totalité. Mais vous comprenez très bien que les complexes, les refoulements, ne me font découvrir aucun principe propre de l'homme, mais me montrent un conditionnement désordonné et mettent l'homme en situation limite. Donc, je saisis un conditionnement désordonné du côté angoisse, du côté culpabilité, du côté aliénation. Et je crois qu'on pourrait, si on essaie assez attentif, on pourrait très bien saisir que, de fait, l'arrêt de cet appétit naturel religieux va créer des complexes très particuliers, parce qu'ils sont fondamentaux. C'est peut-être ceux qui commandent tous les autres. Ils sont fondamentaux. Il faut aller jusque-là si on veut saisir le point de vue de l'angoisse, si on veut saisir la culpabilité. La plus grande culpabilité, c'est évidemment à l'égard de Dieu. Je n'ai pas rendu à Dieu l'honneur qui lui était dû. Je n'ai pas rendu à Dieu l'adoration qui lui est due. Et donc, à ce moment-là, il y a au-dedans de nous-mêmes comme une espèce de repliement très fondamental qui va se réaliser dans l'angoisse. Ou va se réaliser dans une angoisse scrupuleuse. Nous avons vu que le scrupule pouvait naître d'une excroissance religieuse. Alors, le scrupule va se retrouver dans l'angoisse. Il y a des angoisses scrupuleuses. Il y a des gens angoissés à cause du scrupule. Ce n'est pas la même angoisse que l'angoisse purement psychologique, parce qu'elle a un enracinement religieux. Et je crois, j'en ai discuté une fois avec un psychiatre, un psychanalyste à Paris, et il me disait qu'en effet, on ne faisait pas assez attention à ça. Je lui demandais, je lui posais la question. Je lui posais la question, il faut de temps en temps poser des questions comme ça. Je lui dis, est-ce que vous faites la distinction entre l'angoisse pure et simple, et puis le scrupule? Alors il m'a dit, j'ai pas fait beaucoup d'attention jusque maintenant. Très bien. Mais alors on a discuté, et puis il m'a dit, c'est vrai, vous avez raison, il faut essayer de discerner l'angoisse qui vient du scrupule, puis l'angoisse tout court. L'angoisse qui vient du scrupule, elle s'enracine dans l'attitude religieuse. Ça ne peut pas être autrement. Et il y a une angoisse religieuse, ça c'est sûr, et l'angoisse scrupuleuse qui est enracinée dans le point de vue religieux. Eh bien, au point de vue de la culpabilité, je crois qu'on aurait quelque chose d'analogue. Il serait important, parce que ce n'est pas les mêmes leviers de commande, vous voyez, qui doivent aider celui qui est dans la culpabilité au niveau psychologique et la culpabilité psychologique encore, c'est toujours au niveau psychologique, mais c'est teinté de modalités différentes. Donc, c'est toujours le même point de vue psychologique, mais l'origine est différente. Et donc, on doit pouvoir aider différemment. On ne doit pas sortir de la même manière de l'angoisse tout court et du scrupule. Il semble bien qu'on ne doit pas en sortir de la même manière. Parce que d'un côté, c'est uniquement, au point de vue, un arrêt vis-à-vis de la finalité. Là, c'est un arrêt par rapport à une finalité très, très, très précise, l'appétit naturel religieux. Donc, vous voyez comment manifeste-t-elle cette complexité, ce refoulement, c'est tout simplement dans les différents complexes. Il est sûr que le fait qu'on n'adore plus le véritable Dieu fera qu'on sera tenté perpétuellement d'idolâtrie. L'idolâtrie provient d'un manque d'adoration. Alors on se récupère. Oui. Oui. Oui, ça pourrait s'expliquer de cette manière, le fait qu'il n'y ait plus adoration au sens fort, on adore le tout. On se récupère de cette manière-là. C'est une adoration du tout. C'est un genre d'idolâtrie. Adorer le tout, adorer l'univers, adorer le soleil, adorer, vous voyez. Et ça se retrouve aujourd'hui, n'est-ce pas, tout le monde le dit. Il y a une espèce de recrudescence d'idolâtrie partout parce qu'on n'adore plus le vrai Dieu. Alors il y a des sectes. Qui adore le soleil. Hein, tout près de Bâle, hein, il y a une secte qui adore le soleil, là, qui est très particulière tous les petits matins. Il y a une adoration du soleil. Alors, c'est parti. J'ai pas fait de retraite là, mais on voit, c'est sûr, le panthéisme est une forme d'idolâtrie. L'adoration comme acte produisant en nous la vertu de religion. Ne présuppose-t-elle pas nécessairement un acte de contemplation, par découverte tout imparfaite qu'elle soit de l'existence de l'être premier ? Alors, l'adoration comme acte produisant en nous la vertu de religion ne présuppose pas nécessairement l'acte de contemplation. Non, pas l'acte de contemplation. Le jugement par lequel j'affirme l'existence d'un être premier. Le jugement par lequel j'affirme que cet être premier est mon créateur. Mais ne présuppose pas nécessairement un acte de contemplation. L'acte de contemplation est après. Je dirais, l'acte de contemplation présuppose toujours un acte d'adoration. C'est plutôt l'inverse. Donc, la contemplation métaphysique ne conduit-elle pas nécessairement l'intelligence contemplative à cette attitude pratique religieuse de l'adoration ? Ainsi, existerait-il un lien de nécessité entre la contemplation et l'adoration ? Oui, mais dans le sens inverse. Pas dans le sens dit ici, mais dans le sens inverse. L'adoration sans contemplation est-elle possible ? Oui, l'adoration sans contemplation est possible, puisque c'est l'acte premier et fondamental. Tandis que la contemplation sans adoration n'est pas possible. De même, c'est pour ça que la contemplation implique toujours un élément affectif, à cause de l'adoration. De même, parler des traditions religieuses comme cause génératrice de cette attitude religieuse, n'est-ce pas manifester que l'élément intellectuel par la connaissance de Dieu, connu, en est les premières. De même, parler des traditions religieuses comme cause génératrice de cette même attitude religieuse, n'est-ce pas manifester que l'élément intellectuel pour la connaissance de Dieu contemplative, pour la connaissance de Dieu contenue, oui, par la connaissance de Dieu contenue en elle est premier. Non, on ne peut pas dire ça. On peut dire que les traditions religieuses suffisent pour l'adoration, qui remplace la connaissance métaphysique de l'existence de Dieu, et pas plus. Doit-on distinguer entre vertu affective et vertu morale volontaire? Car l'affectif est volontaire aussi. Alors, distinguer des vertus affectives et vertus volontaires. Toute vertu volontaire est affective. Il n'y a pas une vertu affective. Il faudrait que ce soit l'amitié. Or, de fait, il n'y a pas de vertu d'amitié. Ce serait la seule vertu affective. Toutes les autres sont volontaires. Mais la vertu de justice, affective, c'est volontaire. La vertu d'obéissance, elle est volontaire. Elle n'est pas affective. Vous voyez ? La seule vertu affective, ce serait l'amitié. Or, il n'y a pas de vertu d'amitié. L'amitié est la fleur des vertus. C'est beaucoup plus. C'est la fleur des vertus. Mais ça explique aussi la fragilité de l'amour d'amitié. S'il y avait une vertu, il y a quelque chose de stable. Pourquoi c'est si difficile de rester fidèle dans l'amour d'amitié? C'est parce que c'est la fleur. Et que le printemps, ça ne dure pas. Alors c'est difficile. C'est difficile de se rajeunir tout le temps. Et de rester tout le temps jeune dans son amour. Pour que l'amour d'amitié demeure et continue. Parce qu'il n'y a pas de vertu d'amour d'amitié. Il n'y a qu'un jaillissement. La vertu d'abandon n'est-elle pas essentiellement une vertu religieuse? Il n'y a pas de vertu d'abandon. Il y a un état d'abandon, mais pas de vertu, au sens propre. Et vous voyez, c'est différent. Il faut parler un langage précis en philosophie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vertu d'abandon. L'abandon est un état, comme la pauvreté. Il n'y a pas de vertu de pauvreté. Tandis qu'il y a une vertu d'humilité. La vertu d'humilité, on va le voir. Alors, je termine, si vous voulez, pour la question de la vertu d'obéissance. Nous avons essayé de réfléchir pour voir comment l'obéissance, d'une certaine manière, vous vous souvenez bien le problème, l'obéissance est-elle propre à l'éthique religieuse ou est-elle propre à l'éthique chrétienne? Ça, c'est une très très belle question d'examen. Pour faire sécher le bonhomme en 10 minutes. Hein, très belle. Une dissertation magnifique. Une dissertation magnifique. Vous enfermez pendant 3 heures, on ferait ça. Faites une dissertation là-dessus. La vertu d'obéissance est-elle typique de l'éthique religieuse ou d'éthique chrétienne? Pas si commode que ça, bien voir. Alors, je commencerai tout simplement par dire qu'il est bien évident qu'en éthique chrétienne, l'obéissance prend une importance primordiale. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut toujours commencer par quelque chose de tout à fait premier. Vous voyez ? Bon, alors, à ce moment-là, j'essaierai d'étudier ce que c'est que la vertu d'obéissance. En éthique chrétienne, c'est net. Et c'est très intéressant, c'est que Hegel lui-même met l'opposition entre le point de vue de la vertu d'obéissance par rapport, c'est pas l'éthique chrétienne, c'est Abraham, par rapport aux Grecs. C'est l'esclave soumis à son maître. La foi fait de nous des hommes obéissants jusque dans l'intelligence. L'obsequium fidei. La foi fait de nous des hommes obéissants jusque dans l'intelligence. Obéissants à Dieu. On est obéissant dans son intelligence. Ce qui serait pour Aristote un scandale. Parce que c'est un scandale d'être obéissant dans son intelligence, au point de vue purement humain. Parce que l'intelligence est source d'autonomie. L'intelligence est source d'autonomie dans la prudence. Elle doit être source d'autonomie dans la prudence. Alors l'intelligence ne peut pas être donnée et être source de docilité. Mais la foi nous rend docile et relatif à Dieu. Et c'est Dieu qui est l'autorité. Et donc, dans la foi, il y a une obéissance à l'intelligence. Au plan surnaturel. Pas au plan naturel. C'est la première chose qu'il faut découvrir. Donc, découvrir le mystère de la foi comme une certaine obéissance à l'intelligence. Soumise à l'autorité divine. Je ne peux donner mon intelligence qu'à Dieu. Mon intelligence peut se soumettre à Dieu parce que Dieu est vérité. Parce que Dieu est vérité, je peux donner mon intelligence à Dieu. Et mon intelligence étant donnée à Dieu, sera encore plus intelligente. Il n'y a que Dieu qui ne diminue pas mon intelligence. C'est pour ça que je peux la donner à Dieu. Tandis que tout être humain, tout être créé, je ne peux pas lui donner mon intelligence. Ça, c'est capital de comprendre ça. Et ça, c'est propre de la foi divine. La foi divine permet ce don de mon intelligence à Dieu. Parce que Dieu étant la vérité, une vérité substantielle, je peux donner mon intelligence à Dieu, et le don de mon intelligence à Dieu fait que mon intelligence est encore plus elle-même. C'est ça qui est merveilleux. Parce que mon intelligence respire l'oxygène de l'intelligence, c'est la vérité. Alors là, je respire pleinement la vérité. Et si je respire pleinement la vérité, mon intelligence ne s'asphyxie pas. Tandis que me donner à tout être en dehors de Dieu, ce serait asphyxier mon intelligence. Mon intelligence ne pourrait plus respirer. Bon, alors j'ai, à ce niveau-là, j'ai une obéissance transcendante. Hein, une obéissance au niveau des vertus théologales. À l'intérieur de la foi est impliquée cette obéissance. Ça va très loin. Ça fait comprendre comment l'acte de foi ne peut se faire grâce à l'amour. Au point de départ de tout acte de foi, il y a un amour. La pia affection du Concile d'Orange. Le Concile d'Orange nous montre qu'au point de départ de l'acte de foi, il y a cette pia affection. Donc mon intelligence est inclinée par l'amour à être réceptive de la vérité divine. Et mon intelligence étant inclinée par amour à être réceptive de la vérité divine, mon intelligence est toute ordonnée vers Dieu. Toute orientée vers Dieu. Elle devient dans cet état de réceptivité. Dans la lumière de la foi, l'obéissance va prendre une part très importante dans le point de vue chrétien. Alors j'aurai ici une obéissance, non plus au point de la foi, qui est une obéissance théologale, mais l'obéissance infuse au niveau de la foi et de l'amour, une obéissance infuse qui viendra transformer mon obéissance acquise. Alors, évidemment, au niveau où je me place ici, c'est-à-dire dans une éthique chrétienne, je ne ferai pas la distinction. Je la ferai en théologie morale, mais pas ici. Donc je vais regarder la transformation de mon obéissance par le point de vue de la foi et de l'amour. Autrement dit, saisir qu'est-ce que c'est que l'obéissance chrétienne. Au point de vue purement éthique, qu'est-ce que c'est que l'obéissance chrétienne? L'obéissance chrétienne, c'est obéir à une autorité divine. Une autorité que je considère comme une autorité divine. Alors, c'est l'obéissance à qui? C'est l'obéissance à la loi divine. C'est l'obéissance au Christ. C'est l'obéissance à l'Esprit Saint. C'est l'obéissance à tous les instruments du Christ. Puisque cette obéissance au Christ, en tant qu'il a l'autorité, en tant qu'il est Père, c'est le sacerdoce de Jésus. Le sacerdoce de Jésus. Donc tout instrument du Christ, dans l'ordre du sacerdoce. Puisque obéissance dit tout de suite référence à autorité. Ça, il faut tout de suite comprendre ça. Dès que vous voulez analyser l'obéissance, tout de suite regardez l'autorité. Vous n'obéissez qu'à une autorité. Donc, Si vous parlez d'une obéissance divine, il faut dire que cette obéissance divine est en référence à une autorité divine. L'autorité divine, c'est la loi divine. L'autorité divine, c'est pour nous le sacerdoce du Christ et l'Esprit Saint et les instruments du Christ dans l'Église. Ça, c'est net. Hein? Alors, cette obéissance va donc toujours, à partir de cette autorité, va accepter ce que cette autorité me commande, comme tout acte d'obéissance. L'obéissance, ça reçoit l'ordre de celui qui a autorité. Alors, cet ordre exprimé par la loi divine, la loi divine relève de la sagesse de Dieu. Cette loi divine, elle est donnée dans le Christ. Le Christ est pour moi cette loi divine nouvelle qui me donne les nouveaux préceptes d'amour. Aimer le prochain, aimer Dieu, aimer le prochain dans le même amour. C'est donc vraiment l'ordre nouveau, le commandement nouveau du Christ. Et dans l'Église, les instruments du Christ qui me commandent. Je distinguerai donc ici, et je crois qu'il faut tout de suite comprendre, au point de vue éthique, cette obéissance qui peut prendre toute ma vie. C'est ça qu'il y a de nouveau à l'éthique chrétienne. C'est que toute ma vie peut être enveloppée d'obéissance, parce que je peux me mettre entièrement sous l'autorité du Christ et de l'Esprit Saint. Donc, c'est une obéissance intérieure qui va jusqu'aux intentions profondes de ma vie. Ce qui n'existe absolument pas en dehors de l'obéissance chrétienne. Jusqu'aux intentions profondes de ma vie. Je me mets en docilité à l'égard de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint me transforme et m'apprenne justement à être docile à sa volonté. Et sa volonté, c'est ma sanctification. Et donc ça regarde les intentions profondes de ma vie. Les intentions profondes de ma vie peuvent être vécues dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Et ça, c'est nouveau. C'est quelque chose de caractéristique à la vie chrétienne. D'habitude, l'obéissance regarde uniquement l'imperium, le commandement ultime et dernier des décisions. Tandis qu'ici, ça regarde la décision première et fondamentale, l'intention de vie. Mon intention de vie est remise. Ce qui me fait comprendre qu'il peut y avoir un vœu d'obéissance. Mais le vœu d'obéissance, c'est le vœu des conseils évangéliques, c'est de faire que cette intention de vie prenne de plus en plus toute ma vie. C'est de faire que toutes mes activités, toute l'organisation de ma vie soit remise à cette volonté profonde de l'Esprit Saint sur moi. Et c'est pour ça que je veux que toutes mes diverses activités reviennent au point de départ, cette docilité à la volonté de l'Esprit Saint sur moi, cette docilité à la volonté du Christ sur moi, cette docilité à la volonté du Père sur moi. Donc je me mets dans cet état d'obéissance complet. Voyez donc que là, l'obéissance reste d'ordre pratique, à la différence de la foi, reste pratique, mais saisit toute ma vie, tout le développement de ma vie. Rien n'échappe à cette obéissance interne de l'Esprit Saint, à cette obéissance profonde du Christ. Cette obéissance va pouvoir se traduire dans ma vie à travers un certain genre de vie qui m'est commandé par l'Église. Dès que je suis en face du fort externe, c'est le genre de vie. Et ça, c'est l'Église. L'Esprit Saint, c'est le fort interne. L'Esprit Saint remet à l'Église au fort externe, aux instruments du Christ, à la hiérarchie. Tandis que l'Esprit Saint, c'est uniquement le fort interne, qui saisit pleinement et totalement toutes mes intentions profondes. Et le point de vue du fort externe est remis aux instruments du fils dans le fils, dans cette fort externe. Et alors j'aurai l'obéissance chrétienne dans un genre de vie, par exemple, dans un genre de vie communautaire, religieuse. Dans un genre de vie communautaire religieuse, c'est toute ma vie, même de fort externe, qui est prise par l'obéissance. Donc je crois que l'obéissance devient une vertu qui englobe toute ma vie. Et ceci, c'est tout à fait propre à l'éthique chrétienne. Comment expliquer ça? C'est que le modèle de ma vie chrétienne, c'est le Christ. Et le Christ est mort dans l'obéissance. Donc il a achevé sa vie dans l'obéissance. Rien n'a été en dehors de l'obéissance du Fils bien-aimé à l'égard de son Père. Et toute sa vie a été une vie d'obéissance. Donc, si je suis chrétien, je veux être le plus proche possible du Christ. Je veux donc vivre le plus ce qu'il m'a enseigné. La vie chrétienne consiste à se mettre sur le modèle du Christ et être le plus uni possible au Christ. Puisque Jésus a voulu mener une vie d'obéissance et qu'il est mort dans l'obéissance, on comprend comment dans la vie chrétienne, l'obéissance prend cet aspect fondamental et ultime. Fort interne et fort externe. Les deux types d'obéissance. L'obéissance de fort interne regarde les intentions, l'obéissance de fort externe regarde l'exécution. C'est l'exécution. Toujours à partir de l'impérium. Ici, c'est les intentions. Pas conscient. Sous le souffle de l'Esprit Saint, je veux que toutes les intentions profondes de ma vie soient en conformité avec le bon plaisir de Dieu. Et je veux que ces intentions s'incarnent dans ma vie, dans le fort externe, dans mes gestes et mes paroles, dans mes actions, s'incarnent dans le fort externe. Alors, c'est l'exécution. Et alors, c'est l'obéissance dans l'ordre de l'exécution. L'obéissance classique, hein, dans l'ordre de l'exécution, dans le règlement de vie, la cloche sonne à telle heure. Alors, on sait très bien que c'est le point de vue de l'imperium du supérieur qui se traduit à travers la cloche et j'obéis à travers ça. Bon, alors, c'est immédiatement l'exécution. Et l'exécution se fait de cette manière-là. Donc, fort interne, fort externe. Ceci, c'est classique, et c'est l'Évangile. L'Évangile vécu dans l'Église. Vous voyez, la suppression de la vie religieuse supprime l'épanouissement plénier de l'incarnation des intentions de l'Esprit-Saint en nous. C'est très curieux, ça. Et c'est très important à bien voir. Bien voir que l'imitation du Christ implique cette obéissance de fort externe, donc implique au point de vue de la vie religieuse. Impliquée dedans. C'est essentiel à l'Église, la vie religieuse. C'est pas secondaire. C'est essentiel. C'est la vie chrétienne vécue pleinement. La vie chrétienne vécue avec une logique parfaite. C'est la vie religieuse, c'est évident. Puisque je veux imiter le Christ, je veux que le Christ soit modèle et que je sois uni à lui de la manière la plus forte qui soit. Donc l'obéissance de fort interne demande de s'extérioriser dans le point de vue du fort externe. La grosse question est très difficile, c'est de savoir si l'obéissance dans l'éthique religieuse joue la même place. C'est-à-dire, les vœux de religion sont des vœux de religion, donc c'est de l'éthique. C'est de l'éthique religieuse. Eh bien non, les vœux de religion, ce n'est pas de l'éthique, l'éthique religieuse, c'est de l'éthique chrétienne. Parce que c'est des vœux des conseils évangéliques et non pas de la vertu de religion. C'est des vœux, des conseils évangéliques. Donc, ça regarde vraiment l'imitation du Christ. Immédiatement. Alors, je dois me poser la question maintenant, est-ce que l'éthique religieuse va impliquer la vertu de religion, va impliquer l'obéissance? De la même manière. L'éthique religieuse me fait comprendre qu'il peut y avoir par l'adoration, une totale consécration à Dieu. L'adoration implique une consécration à Dieu. Une consécration religieuse, c'est toujours une consécration dans l'adoration et par l'adoration. Il peut y avoir cette espèce de consécration, elle existe dans l'adoration, mais alors elle est toute intérieure. Je peux, en effet, me vouer entièrement à Dieu dans un désir de faire pleinement et totalement la volonté du Père. Mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir une incarnation de cette attitude. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de modèle. Il ne peut pas y avoir une incarnation. Et c'est pour ça qu'à partir de là, je dirais que l'obéissance religieuse reste une obéissance dans le prolongement de l'adoration, mais elle ne peut pas impliquer au sens strict une incarnation. Il me semble bien. De sorte que la vertu d'obéissance en éthique religieuse reste uniquement au niveau intérieur, dans le prolongement de l'adoration, dans le prolongement de la consécration à Dieu. Elle peut prendre des formes très diverses au point de vue extérieur et aucune d'elles ne s'impose. Et donc, pas d'obéissance au point extérieur. Du reste, prenez tout simplement le problème d'une autre manière. Dès qu'il s'agit d'obéissance, il s'agit de l'autorité. Est-ce que l'éthique religieuse me donne de nouvelles autorités? Me manifeste de nouvelles autorités? L'éthique religieuse, au sens strict, non. Puisque dans l'éthique religieuse, je m'aperçois que chacun d'entre nous, nous sommes reliés à Dieu comme au Créateur. Il n'y a pas, au niveau proprement de l'éthique religieuse, de médiation. La médiation relève de la foi et ne relève pas de l'éthique religieuse. Il me semble bien. Donc, il n'y a pas d'autorité qui s'impose, en dehors des autorités naturelles. Alors, ce sera la famille. Et à l'intérieur de la famille, on aura l'obéissance à l'égard de l'autorité des parents. C'est la seule autorité naturelle. Parce que l'État, ce n'est pas une autorité naturelle. C'est une autorité conventionnelle, l'autorité politique. Il est meilleur pour l'homme de vivre dans un état que de vivre uniquement dans un point de vue de famille. Mais à certains moments, quand vous êtes en face d'un état tyrannique, vous revenez à la famille, hein, avec outrance et avec un désir ardent de revenir à la famille, parce que la famille, c'est l'autorité naturelle. Il n'y a pas d'autre autorité naturelle au point de vue religieux. Je n'en vois pas. Y a-t-il un sacerdoce naturel? On va dire religieux. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a un sacerdoce naturel. Il peut y avoir un sacerdoce conventionnel dans telle ou telle communauté, mais il ne peut pas y avoir une sorte de sacerdoce naturel. Donc il y a un sacerdoce chrétien, mais pas naturel. Alors, selon des traditions religieuses, il y aura un sacerdoce religieux, selon des traditions religieuses. Et qui sera sacerdoce conventionnel, c'est pas naturel. Quand vous regardez dans telle ou telle tradition religieuse, ce que c'est que le prêtre, ce que c'est que le sorcier, ce que c'est que... Ben, c'est conventionnel. C'est pas du tout proprement naturel. Donc, il y a là quelque chose qui fait que pratiquement, au niveau proprement religieux, l'autorité va revenir à la famille. C'est pour ça qu'on n'en traite pas maintenant, on traitera du côté politique.